c'est pour ceux qui ne seraient pas au courant, on a décidé de décaler un petit peu la rentrée pour les, ce qu'on appelle classiquement l'école du dimanche, notre ministère auprès des enfants. Voilà, c'est aujourd'hui même que les groupes changent. Ceux qui étaient petits qui montent dans le groupe des moyens, des moyens qui montent dans le groupe des grands. Voilà. Alors, allons voir les enfants à la fin du culte. N'oublions pas qu'ils sont là aussi avec nous. Demandons-leur, peut-être, comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils apprécient et comment ils peuvent encourager, comment on peut les encourager à apprendre aussi de la parole de Dieu. Je vais inviter, en fait, Nathalie, ma meilleure moitié, comme disait Peter tout à l'heure, à venir et à faire la lecture pour nous dans Jacques, donc au chapitre 3. Chapitre 4, pardon, verset 13.
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste.
Merci. Jusque-là, la parole de Dieu. Je voudrais encore prier avec vous. Et c'est Paul qui prie comme ça pour les Thessaloniciens. Nous prions toujours pour vous afin que notre Dieu vous juge digne de son appel et qu'il accomplisse avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de foi, de sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est aussi notre prière. Nous voulons, Seigneur, que tu accomplisses avec puissance toute intention bonne et toute œuvre de la foi en nous et avec nous. Nous voulons nous conformer, Seigneur, à ce désir-là de ta part. Seigneur, par cet épître qu'on est en train de lire dans Jacques, tu mets à nu nos motivations, nos cœurs devant toi. Nos aspirations, nos désirs les plus intimes et profonds sont mis en lumière. Et Seigneur, ce qu'on voit ne nous plaît pas toujours. Il y a encore beaucoup de sanctification, beaucoup de saleté, de reste du péché. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Nous te prions que tu continues ce que tu as commencé à faire dans nos cœurs par ta grâce. Continue, augmente encore même ton action, Seigneur, dans nos vies. Nous t'en prions. Amen. Il y aura quatre parties à ce que je voudrais porter avec vous. D'abord, je voudrais vous rappeler que l'amour du monde, c'est quoi ? C'est aimer toutes les choses que Dieu a faites sans Dieu. Et nous ne devrions pas aimer le monde, parce que aimer le monde, c'est devenir ennemi de Dieu. C'est lutter contre Dieu. Réfléchissons deux minutes ce matin, si on veut vraiment faire ça. Donc, j'aimerais faire un appel encore ce matin à considérer le Dieu que nous servons. Et puis, il y a deux désirs destructeurs pour ce matin dans le passage que Jacques nous donne à méditer. Deux désirs destructeurs, le désir de richesse, le désir de succès. Et on verra, pour terminer, un remède, le seul remède, de tourner les regards, bien sûr, vers Dieu, vers Jésus-Christ, pour l'aimer et comprendre tout l'amour que lui a eu pour nous. Mais l'amour du monde, c'est aimer toutes les choses que Dieu a faites sans Dieu. Vous comprenez ? Donc on ne peut pas catégoriser, on ne peut pas mettre dans une certaine catégorie, voilà, aller au cinéma, ça c'est ouh, c'est l'amour du monde, c'est mauvais. D'accord ? Parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises moralement en soi, justement parce que Dieu n'y est pas, qu'on devrait ne pas faire, d'accord ? Assassiner quelqu'un, fumer de la drogue ou des choses comme ça. Mais il y a des choses aussi qui sont a priori bonnes, sauf que si on perd de vue pourquoi Dieu les a créées et pourquoi pourquoi utiliser ces choses-là, pourquoi vivre ces choses-là pour Dieu, si on commence à vivre ces choses-là sans voir Dieu dans ça, en fait, elles deviennent mauvaises pour nous. Elles deviennent, elles aussi, des idoles. Toutes moralement ou humainement bonnes qu'elles puissent paraître. Alors je vous invite à regarder avec moi plus attentivement ce passage de Jacques. Et voilà l'écriture que Dieu a choisi très intentionnellement de nous donner ce matin. Elle fait partie de tout le conseil de Dieu. Et donc elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre, pour former dans la justice. Hommes et femmes que nous sommes, pour que nous soyons aptes à de bonnes œuvres. Et Paul a dit, il faut qu'on laisse à Dieu alors les commandes de notre vie. Je voudrais expliciter qu'est-ce que ça veut dire quand on laisse à Dieu les commandes de notre vie. C'est-à-dire on croise le bras et on regarde le manche à balai se déplacer tout seul devant nous. En fait, non, ça veut dire qu'on décide de faire des choix qui sont conformes à ce que Dieu veut. C'est bien lui, dans un sens, qui a les mains sur le manche à balai, mais c'est aussi nous. C'est comme si il nous dit, voilà, il faut que maintenant tu vires à droite, alors nous, on choisit de pas nous rebeller contre cette parole, mais de virer à droite quand il dit de virer à droite, de virer à gauche quand il faut virer à gauche, d'appuyer sur tel bouton quand il faut appuyer sur tel bouton, pour continuer l'image dans laquelle Paul nous a entraînés dans cette première partie. C'est comme ça qu'on laisse à Dieu les commandes de notre vie. C'est en fait quand on choisit de faire ce qu'il nous dit. Et ça, alors, c'est le désir de Jacques aussi. Il veut nous sortir de cet amour du monde parce que c'est mauvais et destructeur pour nous. Et si on trouve que Jacques, il a un franc-parler, mais en fait, c'est par amour qu'il le fait. Jacques veut voir des changements radicaux dans la vie des chrétiens à qui il écrit. Et c'est possible dans un attachement à Dieu total, sans réserve et dans la foi. Et voyez comment Jacques nous rappelle, juste dans le chapitre 1, la réalité des difficultés de la bataille que ça constitue notre vie. On est dans un champ de bataille, c'est pas simple de vivre. Et Jacques, il est pas en train de parler de façon conceptuelle, il est bien au courant de toutes ces difficultés-là. Et nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes conscients de vivre sur un champ de bataille? Est-ce que nous sommes conscients de vivre dans un temps de guerre? Imaginez un soldat qui revient après quelques minutes vers son supérieur pour lui dire « Mais attendez, il me tire dessus là, c'est en face. Je ne veux pas y retourner. » En plus, il lance des trucs ronds là et quand ça tombe par terre, ça explose tout sur son passage. Imaginez un soldat qui revient vers son supérieur et dire « Mais moi, je ne peux pas aller là-bas. » Ben, c'est pour ça que tu es soldat, c'est pour ça que tu es enrôlé, c'est pour ça que tu dois combattre, justement, pour faire reculer l'autre en face. Et la même chose pour nous en tant que chrétiens. Dieu nous envoie aussi dans une bataille. Mais Dieu n'est pas un Dieu sans ressources, il n'est pas un Dieu méchant, au contraire. Justement, c'est ce que Jacques dit toujours au chapitre 1, il ne faut pas accuser Dieu de vouloir du mal pour nous, au contraire. Il donne la sagesse, il promet la victoire, la couronne de vie. Il a planté, c'est ça qui est le plus magnifique, il a planté la parole de vie en nous. Et notre survie dépend alors de mettre en pratique cette parole. De pas juste l'écouter pour l'oublier, de pas juste l'étudier, de pas juste faire des essais, des rédactions, de pas juste pouvoir la réexpliquer à quelqu'un. Mais que vraiment, ça change des choses en nous. Et alors dans les chapitres 2, jusqu'à la section qu'on lit aujourd'hui, il y a tout un grand pan de la lettre de Jacques où il nous montre très pratiquement ce que ça signifie de vivre en étant enseignable, en accueillant avec douceur la parole et en la mettant en pratique. Et mon espoir aussi, c'est que la pensée selon laquelle on peut cloisonner et vivre une vie chrétienne d'apparence, certains jours de la semaine et pas d'autres, où il y aurait certains domaines qui nous seraient encore réservés, puis certains, d'accord, on veut bien les donner à Dieu. que ça, cette idée-là, elle se brise de plus en plus dans notre cœur. Et alors, du coup, en se brisant, ça nous révèle le champ de bataille. Il est vraiment large contre le péché. La guerre n'est pas finie. Même quand on est assez régulier dans une église, même quand on en est membre. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas tant nos comportements extérieurs. Vous avez remarqué ça, Jacques. C'est pour ça qu'il est pénible. Parce qu'il ne s'adresse pas juste au comportement extérieur. Il va au fond des choses. Il va là où la source, nos motivations se trouvent. Ce n'est pas nos comportements extérieurs, dans un sens, qui sont un problème. Mais c'est d'où ça vient, la source de tout ça, notre cœur. C'est là que se situe le problème. C'est là que la solution doit être appliquée. Et seul l'Évangile peut produire un tel changement. La vraie foi se manifeste alors dans des œuvres qui plaisent à Dieu. Oui, ça va se voir aussi. Bien sûr, il y aura un changement dans notre comportement, mais la source, il faut qu'elle soit changée d'abord. Et de telles œuvres, alors bonnes, justes, en conformité avec la parole de Dieu, elles authentifient la foi que nous avons. Soit une foi placée en Dieu, soit une foi placée dans toutes sortes d'idoles. Et la grande question ce matin encore, pour nous, c'est est-ce que nous allons être gagnés alors par le désir de sainteté, la passion pour la gloire de Dieu seul, que Jacques est en train de communiquer, quand il parle carrément, quand il parle totalement comme ça, c'est ça qu'il désire. Il veut nous communiquer une passion pour la gloire de Dieu seul. Il veut nous gagner pour un désir de sainteté, pour un service sans partage pour Dieu. Et il n'y a pas trois solutions, seulement Dieu. Ou on vient à la lumière et on se repent, ou on fuit la lumière et on s'auto-justifie. Ce qu'on est très prompt à faire les uns les autres. C'est facile pour nous de se donner des excuses qui sonnent bien à notre conscience pour essayer d'éviter de voir là où Dieu met sa lumière. Mais Jacques, il nous rappelle dans ce passage, la vie passe vite. Un jour, on sera devant Dieu, devant le Dieu trois fois saint, notre Créateur. C'est lui qui a toute autorité dans le monde, c'est lui qui a toute autorité et c'est lui qui parle ici au travers de Jacques. Et j'essaie de m'imaginer, c'est qui ce Dieu-là? Et en fait, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube d'un pasteur Francis Chan et voilà, je reprends juste son illustration, mais c'est Jacques qui dit, n'est-ce pas, un peu plus loin, au chapitre 4, au chapitre 5. Et au verset 4, il utilise cette expression « le Seigneur de l'univers ». C'est une expression assez typique pour l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi, le Seigneur de l'univers ? Est-ce que vous savez que la vitesse de la lumière, vous connaissez la vitesse de la lumière ? C'est 300 000 kilomètres seconde. 300 millions de mètres à la seconde. Est-ce que on arrive même à réaliser 300 000 kilomètres, là, je dis 1, et je suis à 300 000 kilomètres de distance à partir d'ici. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au diamètre de la Terre, d'accord? Là où elle est la plus large, à l'équateur. En parlant quoi? En parlant seulement dizaines de milliers de kilomètres. Elle fait 12 756 kilomètres de diamètre, la Terre sur laquelle on se trouve. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres seconde. Donc si on partait d'un bout de la galaxie jusqu'à l'autre bout de la galaxie, on n'aurait même pas le temps de voir la Terre passer. Ce serait dans une infime fraction d'une seconde qu'on serait en train de dépasser la Terre, qui pour nous semble extraordinaire, tellement belle, juste cette région de Provence, mais c'est rien du tout dans l'univers. La galaxie dans laquelle on se trouve, c'est un disque qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. La galaxie, c'est un disque qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. Ça veut dire qu'une année-lumière, c'est voyager à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 km/s seconde, pendant un an. D'accord ? Est-ce que vous êtes en train de réaliser le monde que Dieu a fait ? Et quand on a traversé juste la galaxie, on n'a fait qu'une petite partie de l'univers. parce qu'il y a des centaines de milliers, je ne sais pas exactement combien, d'autres galaxies qui sont dans cet univers. Juste dans notre galaxie à nous, il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles, la taille de notre soleil qui nous chauffe, qui nous éclaire. Il y en a 200 à 400 milliards juste dans cette galaxie dans laquelle on se trouve. Le soleil, c'est juste l'une d'entre elles. Et la Bible nous dit que la gloire de Dieu est au-dessus des cieux. Néhémie, il prie à Dieu, il dit « C'est toi éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent, c'est toi qui donnes la vie à tout cela et les corps célestes se prosternent devant toi. » Ça, c'est le Dieu qui est en train de parler ce matin au travers de Jacques. C'est lui qui commande aux poissons dans la mer pour qu'ils avalent un homme, le gardent 3 jours dans le ventre et le rejettent à l'endroit prévu par Dieu 3 jours après. C'est lui qui commande aux éléments même inanimés, au son de la trompette, en un clin d'œil, un clignement de cils, les murailles de Jéricho sont tombées. C'est lui qui ouvre la mer en deux pour former un chemin là où il n'y en avait pas, qui maintient les eaux comme 2 murailles de chaque côté. On ne peut même pas commencer à imaginer le Dieu devant lequel on se trouve. C'est celui devant lequel ceux qui ont été dans sa présence sont tombés comme morts. Rappelez-vous Ésaïe. Et à moins que Dieu n'étende sa main et dise « Vie, reste en vie devant moi. » C'est impossible. Impossible de tenir. Une de mes plus grandes luttes en tant que chrétien, c'est ce tiraillement, c'est cet oubli de voir Dieu tel qu'il est réellement et de commencer à aimer des choses du monde qui ne servent à rien. Une de mes plus grandes sources de tristesse en tant que pasteur, c'est de voir des personnes se dire chrétiennes, mais ne pas vivre comme telles. C'est aimer, qui aime plus des choses que Dieu a faites plutôt que Dieu lui-même. Des personnes qui refusent la bataille, qui refusent de renoncer à elles-mêmes, qui refusent de se charger de leur croix, qui refusent en réalité de suivre Christ, qui accommodent les paroles de Christ dans le sens qui leur convient, tant que ça ne gêne pas leur confort et leur goût de luxe. Je voudrais juste lire ici une parole de Jésus. Si vous trouvez que Jacques est trop fort, voici ce que Jésus disait. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Il insiste, Jésus. Et il parle de la stupidité de vouloir commencer un chemin et ne pas aller jusqu'au bout, de commencer à vouloir être disciple avec Christ sans aller au bout. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Et pour faire écho avec ce qu'on a vu l'autre jour dans le sermon sur la montagne, dans Luc, cette parole, elle vient juste après. Il n'y a pas de transition, d'accord ? Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais pourquoi il parle du sel tout d'un coup ? Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi comme pasteur. S'il vous plaît, ne répondez pas. Pas tout de suite, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous penseriez si Jacques était pasteur de l'Église. Mais si Jésus était comme physiquement là, présent, en chair et en os, incarné, et en train d'être le pasteur de cette Église, je crois que pas grand monde voudrait y venir. on aurait du mal à venir écouter Jésus. Et c'est ça que Jacques met en évidence. Il met en évidence notre lutte. Et il y a deux passions destructrices, qui sont à l'œuvre en nous et que Jacques dénonce encore ce matin. D'abord, je vais inverser un petit peu l'ordre des choses. Donc, je vais regarder un peu plus attentivement maintenant les versets 1 à 6 du chapitre 5. Un désir destructeur, la richesse, qui est en fait une manière de chercher à combler sa vie, à satisfaire les aspirations de son cœur sans Dieu. Et on regardera après les versets 13 à 17 du chapitre 4. Regardons comment Jacques s'adresse aux riches. Il a déjà abordé le sujet un peu plus tôt dans l'Épître, au chapitre 2, pour dénoncer l'attitude de certains chrétiens qui cherchaient à se faire bien voir, à obtenir des riches, des gratifications. Et il disait que ces riches, ils étaient en train de déshonorer les pauvres. C'était eux qui opprimaient les chrétiens devant les tribunaux et qui calomniaient le beau nom qui est le nom de Jésus, le nom de Christ. Il semble bien que quand Jacques parle des riches dans son épître, il est en train de parler des riches qui ne sont pas dans l'Église, des riches en dehors de l'Église. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour vous rappeler aussi le contexte, donc il y a eu la persécution qui a sévi à Jérusalem. Beaucoup des premiers chrétiens, on est vraiment dans une des premières lettres du Nouveau Testament, ont dû fuir la capitale. Même certains apôtres ont dû partir de Jérusalem. Et ils se sont retrouvés éparpillés en ayant laissé tout derrière eux. Et si vous avez les images des migrants dans les journaux télévisés en ce moment, c'est ça. Ils ont un petit baluchon, ils ont dû quitter parce qu'il fallait sauver sa peau. Et donc leur terre, leur commerce, leur maison, leurs habits, leur voiture, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer, ils ont dû laisser ça derrière eux. Et maintenant ils sont sans rien, juste dépendant de la bonne volonté d'autres personnes, des riches, qui veulent bien les employer à leur service, pour pouvoir juste subvenir à leurs besoins. Donc, à l'époque où Jacques écrit, des riches propriétaires terriens, qui avaient beaucoup de pouvoir, qui contrôlaient des grandes étendues de terre, et qui faisaient travailler des ouvriers en les exploitant, dont un grand nombre de ces chrétiens qui avaient dû fuir Jérusalem. En plus, certainement que, comme ils étaient de la capitale, c'était pas des ouvriers très qualifiés pour les travaux des champs, ils devaient faire les plus basses tâches. Et voilà trois reproches que Jacques fait à ces riches. Ils accumulent, ils amassent, ils entassent des biens et des richesses. Ça, c'est le verset 3 du chapitre 5. La deuxième chose qu'il reproche, verset 4, « Vous avez frustré les ouvriers, vous avez trompé les plus faibles, vous avez abusé du pouvoir sur des gens qui étaient sans défense. » Et puis, verset 6, vous avez assassiné le juste. Ils ont été jusqu'à être meurtriers. Ils ont des morts sur la conscience, du sang sur les mains. Et comme on l'a déjà vu dans le chapitre 2, aussi ici, il n'y a pas de parole de grâce. Jacques, il n'est pas en train de dire, voilà, c'est terrible, mais voilà, repentez-vous, revenez à Dieu et changez d'attitude. En fait, on dirait qu'il condamne ces ouvriers. Il parle du jour qui vient où Dieu va juger de tels actes. Et il ne semble pas qu'il y a de grâce. Alors pourquoi est-ce que c'est ici? Quelle est la fonction de ce passage dans la lettre de Jacques? Pourquoi est-ce qu'il parle de gens qui sont en dehors de l'Église à des chrétiens? Je pense la première chose, c'est pour consoler. Et on va juste prier que Dieu console ce bébé-là qui pleure, parce que c'est vraiment difficile, je sais pas pour vous. Tu pourras faire une petite pause, tu couperas ça dans la prédication. On va prier. Seigneur, on voudrait te demander de faire du bien. Je pense que c'est Johanna qui est à côté, qui peut-être a mal ou qui se sent pas bien. Seigneur, on te prie vraiment que tu lui permettes de s'apaiser, de trouver du repos dans son corps, dans son âme, son esprit. Seigneur, fais-lui du bien, s'il te plaît. Aide les personnes qui s'en occupent à lui donner beaucoup d'amour et d'affection, à la rassurer, Seigneur. Et nous te prions vraiment que ça permette aux enfants et à nous d'écouter ta parole jusqu'au bout. Seigneur, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Jacques pense, il veut consoler. Il veut consoler les chrétiens en rappelant la fin qui attend ceux qui sont en train d'exploiter justement, injustement, un certain nombre d'hommes et de femmes, de familles chrétiennes justement, à qui Jacques écrit. Donc il y a une fonction de consoler, de rappeler, ok, pour le moment il y a la bataille, pour le moment il y a les souffrances, mais rappelez-vous bien un jour où Dieu va rendre des comptes, où on va devoir se tenir devant Dieu et rendre compte nous de nos actes, de nos pensées. Et ceux qui auront exploité, qui auront fait du tort, ne s'en sortiront pas comme ça. Alors ça c'est bien pour nous, puis du coup ça nous rassure un peu, on est un peu moins concernés, mais je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. Je pense que peut-être un peu par compassion, Jacques il n'est pas en train d'adresser directement les chrétiens. Mais par ricochet, ça nous revient à nous aussi. Il veut démasquer les mauvaises motivations de notre cœur. Ces riches-là sont comme un modèle, un prototype. Ça nous aide à voir de quoi est-ce qu'il parle, Jacques, exactement, dans ses versions les plus extrêmes. C'est quoi ce désir de richesse, cet amour pour la richesse? Il parle des riches qui sont en dehors de l'Église, mais pour que nous, en tant que chrétiens, on puisse voir aussi les mêmes mécanismes en jeu dans notre propre vie. Donc nous voyons et nous constatons à grande échelle, si vous voulez. Par exemple, pour nous aussi, ce qui se passe sur le plan international, les grands groupes, les multinationales qui cherchent toujours plus à amasser, à accumuler des richesses, à faire travailler des gens pour toujours de moins en moins, dans des conditions très difficiles, quand il ne s'agit pas d'enfants, sans règles de sécurité, d'hygiène, à l'autre bout du monde, là où personne ne voit, qui ne jouent pas leurs responsabilités en tentant d'échapper aux impôts, des impôts qui servent au bien commun des nations. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, tout ça, on le voit, on le constate. Donc on doit se demander, mais qui est le riche là, dont Jacques est en train de parler? Mais en fait, tout est question d'échelle, et c'est pas juste les riches qui sont en dehors de l'Église, mais nous aussi, on est concernés. C'est toute une question de comparaison, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on définit qui est riche? Moi, je vous propose une définition tout simple. Le riche, c'est celui qui gagne plus que moi. Mais plus que moi, plus que toi, plus que chacun d'entre nous, dans ce sens-là, d'accord? Le riche, c'est toujours celui qui est juste un pas de plus que nous. Ça peut être le voisin, le collègue, le chef de service. Et c'est une source de jalousie dans notre cœur. Et pourquoi cette jalousie, elle arrive? Parce que nous accordons de l'importance beaucoup plus qu'il nécessaire aux choses matérielles. Bien plus que nous n'imaginons ou le pensons, ou nous voulons bien l'admettre. Les choses matérielles, ça compte pour nous, ça nous définit. Et le problème, c'est que aussi, on est dans une société où tout nous dit que voilà, c'est comme ça que tu es quelqu'un. Si tu as telle ou telle chose, alors tu es. On est défini non pas parce qu'on est quelqu'un, mais parce qu'on a quelque chose. Il y a une chanson de Goldman qui parle de ça. Le problème donc se situe au niveau des intentions du cœur. S'il vous plaît, suivez-moi et suivons Jacques. Que ce soit pas juste une prédication de nouveau qui rentre par une oreille et sort par une autre. Le péché commence et prend racine toujours au niveau des motivations, des intentions du cœur. Si dans notre cœur nous avons ces problèmes dénoncés par Jacques, de vouloir accumuler, de vouloir construire, de capitaliser des richesses, de tromper, de pas se soucier des autres, en disant peut-être un peu fort, mais ils peuvent crever tant que moi je m'en sors. Il y a cet égoïsme-là. S'il y a ce genre de choses où on cherche à posséder toutes sortes de biens pour assurer notre sécurité, pour pouvoir être dans la société et nous sentir à l'aise dans la société, alors nous avons le même problème que Jacques est en train de dénoncer chez les riches en dehors de l'Église. Et voyez que c'est dangereux, ça gangrène tout. Verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés, leur rouille sera pour vous un témoignage, elle dévorera votre chair comme un feu. Donc du cœur, ça va même jusqu'à gagner tout notre corps, de même que la langue est enflammée par des désirs mauvais, par le feu de la géhenne, comme disait Jacques, et elle va polluer tout le corps. La richesse pourrit le cœur. le centre des décisions, de nos désirs. Ça résulte dans le fait que la chair elle-même est dévorée dès maintenant, et surtout dans la vie éternelle, par le mal. Donc la question c'est, où est donc ton cœur? Où est ta sécurité? Où est ton confort? Où est ton assurance? Où est ta source de joie? Et encore un argument pour dire qu'on n'est pas épargné par Jacques ici. Principalement nous, en Occident. Nous sommes les riches de ce monde. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous avez juste un peu voyagé dans d'autres parties du monde, dans ce qu'on appelle les pays émergents, en voie de développement, c'est de la folie. Les choses qui sont dans nos maisons. Le luxe de nos maisons. Nous sommes les riches du monde. Et c'est littéralement qu'on laisse rouiller des affaires dans nos greniers, dans nos garages. Vous irez faire un tour tout à l'heure dans les boîtes, les cartons que vous n'avez pas ouverts depuis des mois et des années. Tout un tas de choses qu'on a achetées et qu'on n'avait pas besoin. Et qui sont en train de prendre l'humidité dehors dans un garage. Ou alors on jette des choses qui marchent encore et qu'on pourrait encore utiliser. Tout ça pour avoir ce qui est plus à la mode. Et tout autour de nous, bien sûr. De la pub dans la rue, à la radio, à la TV. Quand vous consultez un site internet, même chrétien, il y a des annonces Google qui vous sautent au visage pour vous dire, voilà, il faut consommer, consommer pour être. Dans nos discussions autour de nous, c'est compliqué. Tout nous pousse à trouver notre confort, notre assurance, dans le fait de posséder, d'avoir un statut social visible par nos possessions. Plusieurs personnes ont déjà dénoncé ça. Il n'y a pas que la Bible qui dénonce ça. Des projets politiques qui ont été mis en place pour essayer de viser à une meilleure répartition des richesses. Mais aucun système politique ne peut changer le cœur. Au mieux, et c'est pour ça que c'est important quand même de voter, c'est quand même important de se soucier de ces choses-là, un système politique et des lois peuvent contrôler les débordements extrêmes du cœur mauvais. C'est pour ça que Dieu a institué des autorités et on veut prier pour elles. Mais l'évangile seul peut changer le cœur. La vraie richesse, elle est en Jésus. Matthieu 6, qu'on peut lire maintenant, versets 19 à 21. Nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il faut donc examiner où est notre cœur. Et je pense que une des applications, alors, bien sûr, c'est de faire cet examen pour soi et de ne pas oublier nos frères et nos sœurs au loin, dans le besoin. Ne pas oublier les réfugiés. Être en phase avec ceux qui sont les plus nécessiteux autour de nous. Et contribuer effectivement, pratiquement, à améliorer leurs conditions de vie. Pour ne pas être alors pris avec les riches au jour du jugement, être condamné parce qu'on aura assassiné. C'est une parole forte, n'est-ce pas? Mais ça fait peur quand on regarde des témoignages. On se demande qu'est-ce qu'on doit acheter. Parce qu'on voit des multinationales qui, justement, ont du sang sur les mains. Parce qu'ils font travailler des gens dans des conditions totalement irrespectueuses de la nature humaine, de l'être humain. Et on se dit, mais comment on fait pour acheter des choses qui sont pas en train de participer à ce système-là? Le premier désir destructeur, c'est la richesse vécue sans Dieu, ne pas vouloir rendre gloire à Dieu par nos richesses. Le deuxième désir destructeur, c'est le succès. Le succès, c'est de vouloir être quelqu'un sans Dieu. C'est ça que Jacques dénonce ici, en tout cas, à partir du verset 13 à 17. Et là, Jacques, il revient clairement, ou plutôt il s'adresse à des chrétiens. Des gens qui sont en tout cas dans les églises chrétiennes, à qui il est en train d'écrire. Des personnes qui font des projets en vue de gagner de l'argent, en vue de gagner leur vie, qui planifient, qui font du commerce. C'est pas un mal en soi. La richesse en soi non plus n'est pas un mal, n'est-ce pas? Il y a plusieurs versets de la Bible qui nous parle positivement de faire des projets, de réfléchir à notre vie, de planifier. Et notamment dans les proverbes dont Jacques s'inspire beaucoup. Mais la critique, à nouveau, elle est plus profonde. De nouveau, tout se joue au niveau du cœur. La plus grande de ces critiques, c'est au verset 14. « Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Donc on a peu conscience de la vraie taille de notre vie devant Dieu. Et on s'enfle d'orgueil, on s'enfle d'arrogance, on est présomptueux et on s'imagine qu'on va faire des choses par nous-mêmes sans tenir compte de Dieu. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc ici, le problème, c'est pas de planifier. Et ce n'est pas non plus de dire, ben voilà, je pense faire ceci ou je pense planifier comme cela. Demain ou le jour d'après, je ferai ceci, je réaliserai telle ou telle chose. Le problème, c'est dans ce que les gens, ici, dont Jacques parle, oublient de dire. Dans ce qui ne ressort pas dans leurs paroles parce que c'est pas dans leur cœur. Ils oublient de mettre Dieu en premier, de vivre toutes ces choses-là, de planifier en ayant Dieu en vue. Verset 15, Jacques dit, vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ça m'a frappé dans ce verset de voir déjà, si le Seigneur le veut, nous vivrons. Je trouve que ce qu'on a vécu ici avec Jean ces derniers mois nous rappelle ça. Déjà, si on vit, c'est la volonté du Seigneur. Si notre cœur bat, si on peut juste se déplacer, si on a suffisamment de santé, c'est parce que Dieu veut. Et après, deuxième étape, alors peut-être on peut faire ceci ou cela. Voyez, comme on est peu de choses devant Dieu. Le problème, c'est comment ne pas avoir Dieu le dimanche, mais pas le reste de la semaine. Je veux bien Dieu pour m'aider à me soutenir le dimanche, mais le reste de la semaine, c'est moi qui gère. Je fais mes plans, je fais mes projets. Je veux bien Dieu pour tel aspect de ma vie, mais pour ma vie sentimentale, pour mon avenir professionnel, pour ma retraite et mes vieux jours. C'est moi qui gère. Donc c'est l'arrogance de croire que même pour des questions purement matérielles, on peut être autonome, on pourrait s'en sortir sans Dieu. J'ai réussi grâce à mes talents, j'ai du succès parce que je l'ai bien réfléchi mon plan et je l'ai mis à exécution. Et on attire l'attention de tout le monde sur soi, sur ses capacités. On se compare à d'autres pour en tirer encore plus de fierté et satisfaire notre orgueil. En fait, c'est une manière de se rassurer, d'apaiser en nous notre idole de la sécurité par moi, la sécurité selon Marc-Étienne, la sécurité selon moi. Mais en réalité, nous ne sommes qu'une vapeur qui passe. Non seulement nos projets, mais notre vie même, nous n'en maîtrisons pas le début ni la fin. Notre succès dépend de beaucoup d'éléments extérieurs à nos plans. Si vous avez déjà un peu bricolé, soit c'est moi qui ne suis vraiment pas doué du tout, mais vous faites des plans, n'est-ce pas, avant de vous lancer à prendre la perceuse, le marteau, parce que les premières expériences vous ont appris qu'il faut mieux prendre du temps à réfléchir et que vous allez gagner du temps après quand ce sera au moment de réaliser. Mais même quand vous avez fait ça, vous commencez à percer et il y a un truc qui va pas, la brique est creuse et vous faites, au lieu de faire un petit trou, c'est un gouffre que vous ouvrez dans votre mur. Vous pensiez juste pouvoir planter un clou à la bonne distance et vous aviez tout mesuré et vous avez oublié de déployer un petit bout de la règle dépliante là et en fait il vous manque 5 cm. Chez nous, il y a anti-moustique là, moustiquaire, merci. Le mot m'échappait. Et j'ai fait toutes mes mesures et en me trompant, en convertissant des millimètres aux centimètres, Et donc, voilà, elle tient, mais franchement, elle est bancale. Hein, donc, c'est pas beau du tout. On a tous parti avec des bonnes intentions, avec l'impression d'avoir tout bien planifié. Et puis, on avait oublié le petit détail qui tue. Dans l'Ancien Testament, les récits de victoire tiennent à peu de choses. En tout cas, à autre chose qu'au meilleur plan et stratège. Vous vous rappelez ce roi qui a essayé de se maquiller, de se déguiser en simple soldat, et puis qui a fait porter les attributs royaux et la cuirasse royale à l'autre roi qui était venu l'aider. Mais qu'est-ce qui l'amène quand même à la défaite? Une flèche tirée au hasard, qui vient se planter exactement au défaut de la cuirasse, dans la faille, le seul trou qui était possible. Il suffit d'un vieil homme qu'on prend pour un fou pour faire perdre une ville bâtie derrière des murailles. C'est Proverbe qui nous dit ça. La bataille se déroule, a priori, tout comme prévu pour les ennemis, avec leurs chars et toute leur puissance militaire, sauf qu'ils n'avaient pas prévu l'orage, la pluie qui tombe, les roues qui s'embourbent, et Dieu qui donne comme cela la victoire à Israël. De même pour nous aussi, le vent tourne. De même aussi pour nos projets cette semaine, ce mois ou cette année. Nous ne sommes qu'une vapeur. Et la crise économique a au moins le mérite de nous rappeler cela. En un instant, des nations entières peuvent se retrouver au tapis. La Grèce, le Portugal, l'Espagne. L'Europe peut imploser d'un instant à l'autre dans les jours qui viennent, sous la pression des migrants. Aucun d'entre nous n'est à l'abri de tout perdre en un instant. Notre assurance alors n'est pas dans nos plans, mais dans la souveraineté de Dieu. On en est bien conscient dans les difficultés, peut-être quand on est dans le chapitre 1, mais le risque, c'est quand tout va bien, de virer de nouveau vers cette arrogance, cette auto-satisfaction. Pour moi, tout va bien. Cette auto-glorification. Mais c'est normal, j'ai fait tout moi-même pour ça. Et ce n'est pas que dans nos revenus, aussi dans nos loisirs. Nous vivons dans une société où les loisirs, les vacances qu'on peut s'offrir, les sorties qu'on peut faire, sont présentées à nos yeux comme une occasion de dominer, de manifester une sorte de puissance par rapport à ceux qui sont autour de nous. Il faut montrer qu'on est heureux, qu'on s'éclate, qu'on est capable de plus que son voisin d'assouvir ses désirs dans tel sport, dans telle activité. De nouveau, Jacques, il ne condamne pas ces choses-là en soi. C'est bien de faire du sport, c'est bien de faire prendre du temps et de se réjouir d'une bonne randonnée ou d'aller dans des endroits du monde qui sont magnifiques et de glorifier Dieu pour ça. Mais s'il n'y a pas Dieu dans tout ça, alors c'est là que notre succès devient vantardise, fanfaronnade et qui déshonore Dieu. Mais maintenant, verset 16, vous mettez votre fierté dans votre présomption. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Pourquoi est-ce que tu me planifies et tu fais des projets alors? Si la réponse, c'est pour moi, pour ma famille, pour mon projet immobilier, alors tu es à côté de la volonté de Dieu. Si tu planifies et tu fais des projets pour toi, pour ta famille, tes projets immobiliers, de façon à honorer Dieu, de façon à travailler pour que ça serve le royaume de Dieu, pour que ta maison soit ouverte, pour que des non-chrétiens puissent entendre l'évangile autour d'un repas. Si, avec ta famille, tu développes une vision de mission pour atteindre tous ceux qui sont autour de toi et avec qui, par ta famille, tu peux être en contact. Voilà, ça c'est une manière de travailler pour le royaume de Dieu et non pas pour le nôtre. Si on veut être notre propre roi, cela va nous conduire à une fin tragique. C'est comme mettre toute sa fortune, tu vends ta maison, tu vends ta voiture, tu vends tous tes habits et tout cet argent récolté, tu invites Cavaillon pour une soirée de folie, une soirée où on n'a jamais vu ça avant. Tout cet argent-là, tout ce que tu possèdes pour juste une soirée. Est-ce que t'es vraiment, c'est ça que tu veux faire? Ben, ne fais pas ça pour ta vie. La vie, elle passe vite, dit Jacques. Et si on poursuit un côté, alors, c'est-à-dire moi et mon royaume, on ne poursuit pas l'autre, Dieu et son royaume. Il n'y a pas d'alternative. Soit on œuvre pour le royaume de Dieu, soit on œuvre pour soi. Travailler pour soi, c'est travailler contre le royaume de Dieu. Et c'est là le sens du verset 17, n'est-ce pas ? Si donc quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Si tu sais quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour ta famille, pour l'argent que tu as, pour les capacités que tu as reçues de Dieu, et que tu ne l'utilises pas pour sa gloire, et c'est un péché. Alors il y a deux désirs destructeurs, le désir de la richesse sans Dieu, le désir du succès sans Dieu, et un seul remède. Le remède, ben justement, c'est ce que Jacques nous a déjà dit un peu plus haut dans le chapitre 4. Puisque l'amour du monde, c'est hostilité à l'égard de Dieu, alors il nous faut remplacer cette affection pour le monde par une affection sans borne, sans limite pour Dieu. Et quand on va faire ça, alors les choses du monde, comme dit la chanson, vont pâlir peu à peu. Et vont plus avoir ce pouvoir attractif et manipulateur et accaparant sur notre vie. Il faut remplacer nos désirs destructeurs par un désir orienté vers la gloire de Dieu. Mettre Dieu au centre de notre vie. Tout a été fait, n'est-ce pas, par lui et pour lui. Et donc il faut qu'on rentre dans cette dynamique-là pour tout ce que Dieu nous a donné. Nous allons passer l'éternité avec lui si nous sommes chrétiens. Alors ne gaspillons pas ce que Dieu nous donne aujourd'hui pour des choses futiles qui vont passer, qui vont être détruites. Mais vivons pour sa gloire et pour son royaume. Et c'est là qu'en entendant Jacques, on réalise qu'on est plus pécheur qu'on ne pense. Plus attrapé par ses désirs destructeurs qu'on veut bien l'admettre. On a envie de dire « Laisse-moi tranquille Dieu ». Avec mes projets, avec mes loisirs, avec ma famille, avec ma maison, avec mes dons, avec mes capacités. Dieu ne dira pas au dernier jour « Bravo, bravo pour ta famille, c'était super. Tu as bien pris soin de tes enfants. » Parce qu'il y a des non-chrétiens aujourd'hui qui prennent très bien soin de leurs enfants. Il ne dira pas non plus « Bravo pour ta maison. » Franchement, j'ai pas vu une petite graine de poussière. Quand t'as fait le ménage chaque semaine, ça m'a soufflé, quoi. Bravo. Il va pas dire bravo pour tes résultats sportifs. Ah, la fois où t'as eu 18-9 là contre l'adversaire, c'était chaud, mais voilà, tu t'es bien battu, bravo. Qu'est-ce qu'on veut entendre? Ce genre de choses là, le jour où on va être devant Dieu? On veut entendre non, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Et maintenant, rentre dans la joie de ton maître. Et je te confie des choses encore plus glorieuses et plus grandes, éternelles. Dieu ne nous a pas fait pour que nous vivions sur cette terre à nous amuser, à avoir une jolie petite famille et des joyeux petits-enfants. Il nous a créés pour lui. Et si nous avons une joyeuse famille, gloire à Dieu, mais que ce soit pour lui. Si nous avons des enfants heureux, gloire à Dieu, que ce soit pour lui. On fait ça, on vise à nourrir notre épouse, à faire du bien à nos enfants pour servir la gloire de Dieu. Nous sommes plus pécheurs qu'on veut bien l'admettre, mais nous sommes aussi plus aimés qu'on ne pensait qu'on peut le concevoir. Ce qui semblait être à la croix le non-succès total. Le Fils de Dieu qui vient et qui se laisse crucifier, cloué sur une croix. Et en fait, la plus belle chose que Dieu nous a donnée, le succès le plus retentissant de Dieu pour nous. Christ a renoncé à la richesse céleste. Il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix pour faire en sorte que nous n'ayons pas à connaître la ruine totale de tous nos plans. Pour que nous n'ayons pas à vivre dans l'éternité sans la richesse de Dieu. C'est le même chemin que nous devons suivre, nous repentir, nous abaisser, comme a dit Jacques un peu plus tôt, sous la puissante main de Dieu. De nous soumettre à lui, de purifier nos mains, de nettoyer notre cœur partagé, de reconnaître notre misère avec toutes les choses qui remplissent nos maisons, la misère de notre cœur, et de chercher à nous abaisser devant le Seigneur, et alors il nous élèvera. Avec Christ, alors, acceptons de nous abaisser sous la main puissante de Dieu et cherchons à ressembler à Christ. Et voilà la promesse. Si nous nous abaissons devant le Seigneur, il nous élèvera. Nous bénéficierons du succès de Christ quand il s'est ressuscité le troisième jour, qu'il est retourné à la droite de Dieu le Père, qu'aujourd'hui, c'est lui qui règne sans conteste sur ce monde. C'est lui qui est en train de rassembler tout sous son autorité. C'est lui qui aura la richesse des nations. Et nous bénéficierons du succès de Christ si nous acceptons de rentrer dans son abaissement aussi. Nous allons hériter de toute la richesse de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Cette richesse-là, elle est incalculable. Elle est de loin supérieure à tout ce qu'on pourrait accumuler sur ce monde-ci. On va être couvert de la gloire éternelle, sans possibilité que cela rouille ou que ça soit volé. Alors, en attendant, il nous faut nous abaisser et il nous faut être patient. Même quand tout dans la société nous dit « tu peux tout avoir dans l'instant ». Mettons nos cœurs au bon endroit. C'est là que tout commence. Je lis un passage de l'apôtre Paul qui va dans ce même sens. En 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. On dit, mais Paul, tu es contre le mariage? Non, il dit, le mariage, il a aussi une fonction. C'est pas une fin en soi. C'est quelque chose qui est créé, donné par Dieu pour sa gloire. De même, le célibat est quelque chose qui est un don de Dieu pour rendre gloire à Dieu. Et il dit ça, verset 35 du chapitre 7 d'1 Corinthiens. Je dis cela dans votre intérêt, c'est juste la suite de ce que je viens de lire. Paul qui parle, je dis cela dans votre intérêt. Il n'est pas en train d'essayer de brimer les chrétiens. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Paul, comme Jacques, il vise un cœur non partagé, non tiraillé entre l'amour de Dieu et des désirs destructeurs. Dans la Bible du Semeur, le verset 35 dit ceci, « Je dis cela dans votre propre intérêt, et non pas pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée, et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. » Alors que nous allons célébrer le repas du Seigneur, méditons sur cela. Le vrai succès, c'est de s'abaisser avec Christ et de vivre la vie nouvelle avec lui. La vraie richesse, ce n'est pas nous qui pourrons l'acquérir, mais c'est de suivre Christ et alors, en tant que ses frères, en tant que co-héritiers avec lui, nous aurons toute la richesse dès maintenant et dans la vie éternelle. Amen.